Alors, monsieur.
Je suis donc le directeur de l'enseignement catholique du diocèse d'Orléans. Je m'appelle le chanoine Michel Cartier et c'est à ce titre de l'enseignement catholique que vous venez donc m'interviewer.
Oui, c'est cela. Oui.
Parmi toutes les questions que vous m'avez posées, je ne pourrais certainement en retenir que quelques-unes. Le thème principal, qui est l'enseignement catholique à Orléans, est trop vaste pour que nous abordions tous ses aspects en l'espace d'une heure. Mais je voudrais d'abord répondre à votre première question. Comment fonctionne cet enseignement catholique dans le diocèse?
C'est cela.
Il faudrait le prendre à ses différents niveaux, depuis la base jusqu'au sommet. Au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, au niveau de l'école, nous avons des conseils de parents ou d'anciens auxquels se joignent des maîtres et évidemment le chef de l'établissement, les aumôniers, qui sont des conseils d'établissement et dont la mission est d'assurer la vitalité de l'école. C'est entre les mains des parents qu'est remis le sort de l'établissement, soit parents actuels, soit parents anciens, et également entre les mains du chef d'établissement, le premier intéressé, et de ses maîtres. Ces conseils de parents ont trois objets particuliers. Ou bien ils sont chargés de la gestion de l'établissement. Ce sont des questions purement matérielles, de bâtiment, de traitement, d'achat de matériel pour la pédagogie. C'est ce qu'on appelle l'organisme financier. Dans notre langage juridique français, nous appelons ces groupes des associations d'éducation populaire, en abrégé AEP, dont le rôle est essentiellement un rôle administratif et financier. Il y a ensuite des groupements qui sont spécifiquement constitués de parents, que nous appelons dans notre langage les appels, c'est-à-dire association des parents de l'enseignement libre. La mission des appels est de s'occuper de l'éducation des enfants. Tout ce qui concerne la tâche essentielle de l'école, c'est-à-dire l'instruction et l'éducation, relève de l'association de parents d'élèves. Cette association de parents d'élèves travaille évidemment très étroitement avec les parents et le directeur, car il ne peut pas y avoir une école si parents et maîtres travaillent chacun de leur côté. Ce qui fait l'originalité d'une école chrétienne, c'est cette communauté éducative, selon le terme que le Congrès de Lyon en 1967 a défini, communauté éducative de tous ceux qui, à un point de vue ou à un autre, ont la responsabilité de l'enfant. Une école chrétienne n'est pas faite d'individus qui sont juxtaposés les uns à côté des autres et qui travaillent avec des opinions personnelles. Une école chrétienne, c'est l'œuvre d'une association d'individus qui travaillent ensemble dans une même voie pour un même but, qui est la formation chrétienne des jeunes. Ce n'est pas tellement ce qui peut être dit par tel ou tel maître qui peut orienter les jeunes dans son éducation, c'est l'atmosphère qui est respirée dans un climat où, ensemble, on a la même foi, la même manière de concevoir la destinée humaine, la même foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi dans la manière de se comporter. Il faudrait. Vous pouvez effacer.
Oui, on peut effacer après.
Non, parce que ma phrase n'est pas française.
Ah oui, mais vous n'avez qu'à recommencer, puis on peut ensuite effacer. C'est plus facile que de retrouver maintenant le début de la phrase.
C'est plus facile.
C'est bon. Beaucoup plus facile. Oui, je vous assure qu'on peut très facilement couper la bande
bon,
après.
Il faudra reprendre à partir du moment où j'ai défini le rôle des appels.
Oui.
Parce que comme vous voulez que nous fassions en même temps une édition pour le français...
Non, on ne va pas vous prendre comme modèle nécessairement du français parlé d'aujourd'hui.
Parce qu'il y a une faute de français.
Bon. Ah oui, alors, c'est peut-être mieux.
Alors, je reprends.
Les Français font quand même une faute de français.
Je reprends
oui.
À la définition de l'appel.
Oui, bon.
Le groupe de parents qui constitue ce que nous appelons l'appel, c'est-à-dire l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre, ce groupe a pour but essentiel... l'éducation des jeunes qui sont confiés à l'école. Il ne s'agit plus ici de questions de bâtiment, de questions d'argent ou de questions de finances, il s'agit de ce pourquoi l'école est faite, c'est-à-dire la constitution d'une communauté éducative dans laquelle parents, maîtres et enfants partageant une même conception de la vie qui pour nous est la vie chrétienne. Donc une communauté éducative qui se chargera de créer le climat de vie évangélique tel que nous devrions le concevoir pour le plus parfait épanouissement des jeunes. Une école chrétienne n'est pas faite d'éléments juxtaposés qui, par hasard, partagent une même foi. Ce sont des parents qui... parce qu'ils partagent une même foi et une même conception de la vie, veulent organiser un établissement dans lequel le climat doit être, devrait être, voudrait être, un climat de vie évangélique avec tout ce que cela représente de vertu et morale et théologale. C'est donc aux parents qu'il revient... de voir comment, dans les petits détails de la vie de chaque jour, comment dans le climat qui se crée dans l'école, cet établissement est fidèle ou non à l'idéal qu'il s'est proposé. Ce groupe de parents d'appel, je le disais tout à l'heure, travaille très étroitement avec les parents, le directeur et les élèves. Les réunions de parents se font à des heures où l'on espère pouvoir toucher le maximum de personnes, mais pour être très objectif, il faut bien dire que si nous avons parfois des difficultés pour recruter les membres des AEP chargés des questions financières et matérielles, nous avons peut-être encore plus de difficultés pour recruter des parents qui acceptent de prendre la responsabilité de ces groupes de réflexion, car l'expérience prouve qu'il est parfois plus facile de trouver des solutions à des problèmes de bâtiment et de finances qu'à des problèmes d'éducation. Et que les parents s'expriment plus facilement lorsqu'il s'agira de discuter un budget et d'établir des scolarités ou de définir un plan de financement pour des emprunts, que lorsqu'il s'agira tout simplement de voir dans quelle mesure l'école est fidèle à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et ce qu'elle doit faire pour être toujours plus généreuse et plus croyante. On s'exprime, beaucoup de parents ont certainement des convictions très profondes, mais ils ont plus de difficultés à s'exprimer en groupe sur ce qui fait peut-être les raisons fondamentales d'exister, plus que sur ce qui concerne des constructions ou des modes de vie. Je pense que vous comprenez un peu notre distinction
oui.
Entre ce que j'appelle les appels et les AEP.
Oui, vous avez distingué très clairement entre les deux.
Alors, nous avons donc ces deux associations de base. Et au sein même de l'établissement, il y a un troisième groupement qui existe et qui, lui, se réunit beaucoup plus fréquemment parce qu'il est affronté aux problèmes de chaque jour, non pas simplement les grands principes ou d'éducation ou de fonctionnement, mais que c'est la vie quotidienne, si vous voulez, ce conseil d'établissement qui est formé du directeur, des maîtres, des responsables de la surveillance, de l'aumônier et de quelques représentants de parents de l'appel. Ce conseil se réunit nécessairement toutes les semaines, fait le point et à tout instant est obligé de rectifier, assimiler, répondre à des urgences. Et c'est dans ce conseil, où il n'y a que de quelques éléments représentatifs des deux autres, c'est dans ce conseil que se pense vraiment la vie de la maison, parce que toute vie humaine est faite de détails et non pas de grands principes. Ce sont les détails de chaque jour. Et c'est dans ce conseil que nous faisons rentrer, lorsque l'établissement est un peu important, des représentants des élèves à partir de la troisième et surtout jusqu'aux classes terminales, afin que le point de vue des élèves soit lui aussi bien connu et pour que les jeunes aussi puissent apporter leurs éléments de solution dans les problèmes de la vie de chaque jour qui sont leur vie à eux. Voilà donc défini, si vous voulez, la structure de base. Voilà l'élément qui est à la base. Les maîtres, de leur côté, s'ingénient pour pouvoir se réunir entre eux et parler des questions qui sont spécialement leurs questions de pédagogie. Selon leur discipline, si c'est un établissement important, ou tout simplement entre eux, lorsque c'est une petite école primaire, entre 2, 3, 4 instituteurs ou institutrices, pour se tenir au courant, les uns et les autres, des réformes de la pédagogie, des modifications de programmes. Nous sommes en ce moment en France depuis plusieurs années en bouleversement complet du point de vue des méthodes pédagogiques. Je n'en parlerai pas ici, puisque je suppose que les maîtres vous en ont causé dans votre interview avec monsieur. Il faut savoir que tous ces bouleversements de méthodes pédagogiques demandent évidemment une concertation entre les maîtres d'un même établissement. Au plan du diocèse, nous avons une structure analogue. Les appels sont fédérés, les AEP sont fédérés, le rôle reste le même, le but de la fédération est simplement de guider, d'épauler, de stimuler, de trouver des responsables et parfois un peu, n'est-ce pas, de secouer les sommeils léthargiques qui ne peuvent pas ne pas se produire de temps à autre dans telle ou telle école particulière. Le conseil d'établissement est un organisme qui est propre à chaque établissement. Il n'y a pas quelque chose d'analogue sur le plan diocésain. Par contre, sur le plan diocésain, nous avons un comité diocésain de l'enseignement catholique, et cela est excessivement important. Ce comité diocésain de l'enseignement catholique regroupe des représentants de tous les organismes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans l'enseignement libre. Représentants des parents d'élèves, représentants des organismes de gestion, des AEP, représentants des anciens, représentants des maîtres, représentants des chefs d'établissement, représentants des syndicats de chefs d'établissement et syndicats de maîtres, représentants des éducateurs, j'en oublie certainement encore, et tout cet organisme, qui s'appelle le comité diocésain de l'enseignement catholique, est chargé de définir ce que l'on pourrait appeler dans un sens très large la politique générale de l'enseignement libre, en n'oubliant pas que dans cette politique générale, il y a en particulier tout cet aspect pastoral de l'éducation de la foi des jeunes qui relève de la charge particulière de l'évêque dans un diocèse. L'enseignement catholique n'est pas un organisme qui a pour but de tourner en lui-même pour le plaisir de tourner avec son recrutement de professeurs et puis ses installations matérielles. Il a pour but essentiellement l'éducation des jeunes et en particulier l'éducation de la foi des jeunes quand il s'agit de jeunes chrétiens. Et donc il est normal qu'il n'oublie jamais cette perspective première malgré tous les autres soucis. Et voilà pourquoi ce comité diocésain de l'enseignement catholique est placé sous la présidence de l'évêque. L'évêque propose au comité diocésain de l'enseignement catholique un certain nombre de personnes qui pourraient faire remplir le rôle de directeur diocésain. Et parmi ces différentes personnes qui sont proposées par l'évêque, le comité diocésain choisit tel ou tel à qui incombe la mission de coordonner les initiatives, de stimuler, d'être l'instrument pratique de tout ce comité. C'est le rôle que je remplis actuellement dans le diocèse d'Orléans, en tant donc que directeur de l'enseignement catholique. Cette association, que l'on appelle donc le comité diocésain de l'enseignement catholique, évolue comme toute association vivante. Des projets de modification de statut sont en cours, mais quelle que soit la forme que prendra ce comité, l'esprit reste le même. Il s'agit de regrouper les responsables réels et il s'agit de coordonner l'ensemble de l'activité de l'enseignement catholique dans un département. Voilà donc pour le plan départemental. Nous cherchons de plus en plus à avoir un échelon régional. Vous savez qu'en France, nous sommes appelés à travailler de plus en plus au plan de la région. Vous savez que cette tendance à la régionalisation répond au désir de quantité de Français. C'est un terme qui est assez flou. Nous savons fort bien qu'en France, autour de ce terme de régionalisation et des réformes de régionalisation, s'est déroulé notre fameux référendum qui a abouti à la démission du président de la République. Tout le monde parle de régionalisation. La manière dont elle a été présentée à l'occasion des derniers événements politiques fait qu'on met un peu sous le boisseau la réforme des structures administratives qui avait été prévue, mais on a l'impression très nette que reviendront nécessairement les objectifs de régionalisation, et en tout cas c'est une nécessité absolue. La centralisation française est excellente, en ce sens qu'elle a fait l'unité de la France dans des périodes où les régions voulaient être tellement autonomes et voulaient demeurer tellement autonomes qu'elles risquaient de faire obstacle à l'unité du pays autour de la royauté française, que ça a été l'œuvre de la royauté française que de constituer petit à petit un État français se substituant à des régions autonomes. Cela a été fortifié encore après la Révolution avec l'esprit centralisateur de Napoléon Ier. Mais on peut dire que maintenant, la France ne craint pas de devenir de revenir à l'état primitif d'une dispersion des provinces et d'une désorganisation complète. Donc elle peut se permettre de donner beaucoup plus d'initiatives aux autorités régionales. Je ferme la parenthèse sur cet aspect un peu politique ou historique de l'histoire de la régionalisation en France, mais il est indispensable que nous prenions petit à petit des dimensions régionales, et en tout cas pour nous, pour l'enseignement catholique, c'est certainement indispensable, car il y a un certain nombre d'objectifs que nous ne pourrons atteindre qu'au niveau de la région. Car l'échelon national est beaucoup trop vaste pour pouvoir réaliser quelque chose d'utile directement. Il faut penser que les distances sont un obstacle à la réalisation, à des réalisations pratiques. Sur le plan national, nous ne pouvons pas envisager d'avoir la réponse à nos objectifs immédiats, tandis que sur le plan de la région, nous le pouvons. Je donne quelques exemples. Lorsqu'il s'agit de la formation des maîtres du primaire, il est évident qu'un département ne peut pas à lui tout seul monter une école normale. Il est évident que s'il faut que cela se réalise à l'échelon de la France, nous n'enverrons pas des stagiaires à 300 ou 400 km pour faire des études d'instituteurs. Par contre, l'échelon de la région est un échelon tout à fait à échelle humaine pour nous.
Vous parlez d'école normale catholique?
Oui, d'école normale catholique, oui. Pour former des maîtres, les maîtres du primaire. Mm-hmm. Bon, lorsque les maîtres du secondaire vont vouloir dépasser un petit peu la sphère de leur établissement, pour pouvoir coordonner aussi leurs initiatives. Lorsqu'on va vouloir faire, par exemple, une session de formation de professeurs de français ou de professeurs d'histoire et de géographie, l'échelon national, c'est tout de suite des distances considérables. L'échelon régional, c'est normal. nous pourrons beaucoup plus facilement nous retrouver avec des distances de 200, 150, 200 km pour faire des sessions locales. Voilà donc un certain nombre d'aspects, si vous voulez, qui sont importants. D'autre part, nous avons aussi à tenir compte du fait que la réforme de l'enseignement multiplie les enseignements techniques. Si par exemple au niveau des études de premier cycle jusqu'à la fin de la troisième, les élèves ont sensiblement les mêmes programmes, et si d'autre part nos effectifs nous permettent de constituer aussi des établissements normaux, lorsque nous arrivons au plan du deuxième cycle, c'est-à-dire seconde, première et terminale pour la préparation des baccalauréats, nous n'avons pas d'effectifs suffisants pour pouvoir faire des établissements niveau lycée partout où nous avons des CES. Il est donc indispensable de se regrouper. On peut encore dire qu'à l'échelon de chaque département, nous avons suffisamment d'effectifs pour assurer les baccalauréats traditionnels. Mais lorsqu'il s'agit de baccalauréats techniques très spécialisés, lorsqu'il s'agit d'installations techniques très compliquées, donc très coûteuses, nous n'avons plus sur le plan d'un département suffisamment d'élèves pour pouvoir assurer vraiment des classes valables, qu'il s'agisse par exemple de l'orientation agricole, de lycée agricole, qu'il s'agisse d'enseignements techniques tels que des baccalauréats de techniciens de mécanique, d'électricité, qu'il s'agisse de baccalauréats de techniciens de biochimie, de préparation des carrières sociales, les baccalauréats de techniciens du secteur économique, que ce soit les techniques quantitatives de gestion, que ce soit les techniques administratives. Nous n'avons pas la possibilité dans chaque diocèse de créer des établissements de ce niveau. Il est donc indispensable de le faire sur le plan de la région. Et d'autre part, il est aussi indispensable que le faisant sur le plan de la région, nous ne laissions pas trop d'initiatives se prendre sans une certaine coordination, afin que des établissements à vocation très particulière ne se créent pas dans un secteur géographique trop restreint pour ne pas se nuire. Je pense en particulier que dans une académie comme la nôtre, dans la région Orléans-Tours, les deux villes d'Orléans et de Tours peuvent se permettre d'avoir quelques enseignements spécialisés en matière technique, mais qu'il ne serait nullement opportun qu'il en ait trop ailleurs. Donc voici quelques aspects que j'ai pris à titre d'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont des programmes, des projets à l'échelon régional. Voilà pourquoi nous avons constitué, au-dessus des comités diocésains de l'enseignement catholique qui existent dans les 5 diocèses de la région, nous avons constitué au-dessus un organisme régional qui s'appelle le COREC, Comité Régional de l'Enseignement Catholique. Ce comité a été placé sous la responsabilité de l'évêque de la région qui a reçu de la commission épiscopale régionale le souci du monde scolaire, plus particulièrement le monde scolaire et tout le monde scolaire, ceux de l'enseignement public comme ceux de l'enseignement catholique, et cet évêque est Mgr Goupil, évêque de Blois. Voilà pour nos structures. Je n'ai été très rapide, je n'ai donné que les grandes lignes. Il ne peut pas être question de rentrer dans le détail, c'est beaucoup trop compliqué. L'essentiel, c'est de bien voir comment se structure cet enseignement catholique. Alors, je n'ai pas parlé du plan national, mais vous avez ensuite la même chose sur le plan national, un comité national de l'enseignement catholique qui reprend, si vous voulez, la même représentation de tous les éléments qui ont une part active dans la vie de l'enseignement catholique, au niveau des appels, des AEP, des maîtres, des chefs d'établissement, des éducateurs, des aumôniers, mais tout cela au plan national. Et c'est cet organisme au plan national qui a comme directeur, comme secrétaire général, Mgr Cuminal. Voilà pour nos structures internes.
Est-ce que vous permettez que je pose une question qui oui. pourrait paraître peut-être un peu naïve, mais sur le plan national ou sur le plan régional ou sur le plan départemental ou diocésain, est-ce que, en principe, généralement, vous attendez les décisions de l'enseignement public, et puis ensuite vous essayez de créer quelque chose de pareil dans l'enseignement catholique. C'est-à-dire, je pense non seulement au niveau des réformes en général, c'est-à-dire changement de la structure de l'enseignement secondaire, CES par exemple, mais aussi en ce qui concerne les baccalauréats ou enfin divers aspects de la vie journalière de tous les jours dans les écoles. Est-ce que
alors c'est une question capitale que vous me posez là, n'est-ce pas? Nous allons apprendre tout de suite sous un autre aspect, si vous voulez bien, sous l'aspect de la liberté de l'enseignement catholique par rapport à l'enseignement d'État à la suite des contrats, car c'est dans ce cadre-là que se situe exactement votre intervention.
Oui.
Vous nous dites, au fond, ouais, allez-vous de l'avant ou attendez-vous pour pouvoir copier?
C'est cela.
Voilà un peu votre
c'est
question. Les rapports de l'enseignement catholique avec l'éducation nationale sont définis par la loi du 31 décembre 1959. Cette loi est précédée d'un très grand préambule qui était le discours de M. Michel Debré. Et dans ce grand préambule, il était dit en particulier qu'il ne s'agissait nullement de vouloir faire rentrer l'enseignement catholique dans l'éducation nationale telle qu'elle est, mais qu'il s'agissait de respecter son caractère propre. Dans ce caractère propre, on sentait bien, dans tout l'ensemble de ce discours, on sentait bien que revenait perpétuellement ce qui avait été signalé à la commission LAPI, qui avait précédé la préparation de cette loi. Dans le caractère propre, nous envisagions d'abord notre conception chrétienne de l'homme, qui fait que malgré la liaison avec l'enseignement de l'État, nous ne voulions pas abandonner le motif profond pour lequel nous voulions des écoles catholiques. Et il y avait ensuite un deuxième aspect, qui était la liberté des méthodes pédagogiques pour pouvoir organiser l'enseignement selon ce qui paraîtrait le meilleur au maître de l'établissement. J'ai fait un peu allusion au premier point tout à l'heure, dans la première partie de mon interview sur le rôle des appels. Je réponds maintenant au deuxième point que vous me disiez tout à l'heure. En matière de pédagogie, comment se situe votre liberté? Ce qui a été dit dans le préambule a été très fortement atténué dans les textes de la loi. Et nous trouvons en particulier dans le texte du contrat d'association, cette phrase que les établissements sous contrat d'association doivent se conformer au programme et aux méthodes de l'enseignement public. Sauf dérogations exceptionnelles pour cas très particuliers. Si bien que nous nous trouvons dans une situation un peu difficile. D'une part, l'enseignement catholique ne confère pas les grades universitaires. En France, il n'y a de grades universitaires que ceux qui sont décernés par l'éducation nationale. Pour nous, les grades universitaires, c'est le baccalauréat, le BEPC, d'accord, nous n'allons pas plus haut dans l'enseignement secondaire. Nos élèves sont donc obligés de passer le baccalauréat. Les programmes du baccalauréat sont déterminés par l'éducation nationale. Nous avons donc à suivre les programmes si nous voulons que les élèves puissent de leur côté être admis au baccalauréat. D'autre part, on nous demande de suivre les horaires de l'enseignement public. Il est dit que dans telle classe, les élèves doivent avoir 5 heures de français, 4 heures de mathématiques, 2 heures d'histoire et de géographie. Lorsque les chefs d'établissement déposent leur programme d'année devant l'éducation nationale, ils sont obligés de faire remarquer que tel professeur qui enseigne telle discipline assure tant d'heures de cours dans telle classe pendant toute l'année. Nous avons donc, si vous voulez, l'obligation de passer les examens d'État, de respecter les programmes de l'État dans le cadre des horaires de l'État. Vous me demandez ensuite quelle est la liberté. Il peut y avoir la liberté pédagogique de la méthode. Les maîtres peuvent employer les méthodes qu'ils souhaitent pour arriver au mieux dans un cadre très défini du point de vue des programmes et des examens et des horaires. Alors là, c'est indéfinissable. Vous avez des maîtres timorés qui diront, puisque je vais être inspecté par un inspecteur de l'éducation nationale et que ma destinée dépendra de mon inspection, puisque mon traitement, mon classement, ma progression dépendront du jugement que va porter l'inspecteur qui viendra me visiter, il faut que je sache exactement quelles sont les théories pédagogiques de cet inspecteur. Et quand cet inspecteur est déjà venu visiter une fois et qu'il a donné un avis défavorable parce que l'enseignement ne lui plaisait pas, quand à la suite de son inspection, il a parlé pendant une heure avec le maître pour lui faire remarquer quelles étaient ses carences, le maître s'applique à bien rentrer dans les vues de l'inspecteur pour que la fois suivante, on ne lui fasse pas les mêmes griefs. C'est ce que j'appelle un peu les maîtres timorés, qui sont des bons maîtres, mais qui ne sont pas des génies. Ensuite, vous avez les maîtres qui sont parfaitement qualifiés, qui n'ont pas peur des contrôles, et qui sont suffisamment en possession de leur discipline et qui connaissent suffisamment la pédagogie pour se permettre des méthodes très personnelles. Ces maîtres-là ne craignent pas la visite d'un inspecteur, car tout inspecteur qui constate qu'un maître est très à l'aise dans son enseignement, ne se formalisera pas que la méthode ne soit pas sa méthode d'inspecteur, il saura reconnaître que c'est une méthode qui est bonne. Si bien qu'au fond, votre question de tout à l'heure, l'initiative pédagogique est-elle possible? Je dis, elle est restreinte parce que la loi nous oblige à suivre un certain nombre d'exigences, mais elle est possible pour les meilleurs des maîtres qui ne craignent pas une tutelle administrative trop forte. C'est donc, si vous voulez, en fonction de la valeur pédagogique du maître que nous aurons des méthodes pédagogiques nouvelles. Cependant, nous estimons que ces textes réglementaires sont vraiment trop stricts quand ils parlent de programme, d'horaire et d'examen. Et nous aimerions que le texte de la loi future lève un peu ce carcan et sans demander que nous puissions échapper au baccalauréat, nous aimerions du moins pouvoir échapper à une tutelle administrative trop forte pour laisser aux maîtres le soin de constituer leur programme et leurs horaires. Cette initiative pédagogique n'est certainement pas possible avec les textes actuels. Cela, c'est un premier aspect, la liberté pédagogique. Vous m'avez demandé ensuite si dans le choix des examens, nous pouvons ouvrir les sections que bon nous semble, ou bien si nous sommes obligés d'attendre que l'éducation nationale ait rodé les nouveaux enseignements pour pouvoir les prendre nous-mêmes. C'est une question qui est bien difficile. Il faudra ici reprendre la définition du besoin scolaire reconnu. Il est dit dans la loi que les établissements peuvent passer un contrat avec l'État dans la mesure où l'éducation nationale reconnaît que l'enseignement de cet établissement répond à un besoin scolaire reconnu. Or, comment l'éducation nationale reconnaît-elle qu'une initiative pédagogique répondra à un besoin scolaire? Nous touchons là l'un des points essentiels de la nouvelle loi. La loi Debré était faite pour ne pas laisser mourir de faim les maîtres qui étaient dans l'enseignement privé. À un moment où l'éducation nationale ne pouvait pas elle-même assimiler tous les effectifs de France. En définitive, elle a été une loi d'économie considérable pour l'État. Car s'il avait fallu que l'enseignement libre s'arrête parce qu'il ne pouvait pas payer les maîtres, l'État aurait dépensé 4 fois plus pour récupérer les élèves et les éduquer aux mêmes conditions financières que ceux de l'éducation nationale. Il s'agissait donc pour la loi Debré de répondre à un problème humain, que les maîtres en fonction ne meurent pas de faim, et en même temps de faire une très grosse économie sur le budget national. Mais, depuis 1959, tous les projets, ou tout au moins de nombreux projets qui ont été faits sur la réforme de l'enseignement, tendent à prendre pour principe que l'éducation nationale doit pouvoir faire face à tous les besoins de la jeunesse française. Et que c'est donc à elle qu'il appartient d'ouvrir les nouveaux établissements ou les nouvelles sections conformes à la réforme de l'enseignement. Tant que l'enseignement catholique demande à passer des contrats pour permettre à des maîtres d'être payés dans le cadre des enseignements anciens, nous n'avons pas trop de difficultés. Chaque fois que l'enseignement catholique demande à ouvrir des sections nouvelles pour faire face ou à la réforme de l'enseignement ou tout simplement aux besoins économiques de la région, que nous connaissons bien et que nous sentons bien, parce que nous sommes en rapport constant avec les autorités locales chargées du développement industriel d'une région, chaque fois que nous prétendons vouloir nous adapter ou à la réforme ou à la vie, on nous répond que ce n'est pas notre mission et que nous ne répondons pas à un besoin scolaire, car l'éducation nationale est bien assez grande pour pouvoir faire face à tous les besoins nouveaux et que c'est sa mission d'éduquer les Français. Nous touchons donc là un problème de fond, qui est celui-ci. Il y a en France une loi scolaire, mais il reste dans l'éducation nationale une mentalité très particulière qui consiste à dire que les besoins de la jeunesse française que c'est à l'éducation nationale de répondre à tous les besoins de la jeunesse française. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas être d'accord. Parce que cela voudrait dire, puisque l'avenir est fait de choses nouvelles, puisque dans le monde, la révolution technique actuelle, il ne peut pas être question de conserver purement et simplement les enseignements anciens, nous ne pouvons pas dire la vocation de l'enseignement catholique consiste à demeurer simplement sur les enseignements d'autrefois. Chaque fois que nous voulons donc ouvrir quelque chose de nouveau, et j'y ai fait allusion tout à l'heure au baccalauréat technique, baccalauréat de technicien, de biochimie, de sciences économiques, de mécanique, d'électricité, de dessinateur industriel, chaque fois que nous voulons ouvrir des sections nouvelles dans ce sens, l'éducation nationale nous dit on ne peut pas vous empêcher d'ouvrir les sections puisque vous êtes en France et qu'en France on est libre. Donc ouvrez vos sections. Et dans 5 ans, quand on aura constaté le fruit de votre travail, on vous dira qu'on les reconnaît et qu'on vous paye les professeurs, ou bien on vous dira que ce n'est pas valable parce que vous avez eu des échecs aux examens et on ne vous payera pas les professeurs. Ce à quoi nous répondons, il nous est absolument impossible de fonctionner pendant 5 ans sans l'aide de l'État. Nous ne pouvons pas commencer. Car les sections nouvelles sont des sections qui ne peuvent être confiées qu'à des professeurs anciens. On ne mettrait pas des professeurs jeunes, débutants, dans des sections d'avant-garde. Il faut y mettre au contraire des professeurs pour qui la pédagogie n'a pas de secret, si on veut qu'elle réussisse. Or, aucun professeur ne voudra quitter sa situation et sa rémunération de l'État pour rester pendant plusieurs années dans une situation très précaire, ne sachant pas si l'enseignement de cette nouvelle section sera un jour reconnue, et perdant 5 années d'ancienneté, ce qui brise quand même toute une carrière d'enseignant. Donc nous ne pouvons pas financièrement payer de professeurs pour assurer les sections nouvelles, et même si nous le pouvions, aucun professeur n'accepterait de quitter une situation sûre pour aller à l'avant-garde. Quand l'enseignement d'État ouvre des sections nouvelles, il ne dit pas à ses professeurs « nous n'allons pas vous payer pendant 5 ans, votre carrière sera arrêtée pendant 5 ans, puis si dans 5 ans vous faites bien, on verra ». Nous répondons « l'établissement dans lequel nous voulons ouvrir une section nouvelle est un établissement qui a fait ses preuves, qui est construit, qui a ses résultats aux examens traditionnels, qui a son corps professoral que vous connaissez, qui est valable, que vous avez inspecté, un corps professoral qui est reclassé. Pourquoi voulez-vous que dans la même lignée, avec les mêmes professeurs que vous connaissez, nous n'ayons pas autant de chances de réussite dans une section nouvelle que les professeurs de l'État ? Et cela est très très difficile parce que les textes étant des textes, l'interprétation des autorités administratives locales est toujours restrictive, et si nous voulons percer, nous sommes obligés d'aller jusqu'au Comité national de conciliation. Ce Comité national de conciliation a été constitué par le législateur pour arbitrer les cas difficiles. Or, nous sommes là à un cas difficile, car il s'agit de savoir si la loi scolaire est faite pour permettre le développement ou si elle est faite en attendant l'extinction. Voilà donc un cas essentiel. Le Comité national de conciliation, qui est constitué de personnalités les plus haut placées de France, mais qui ne sont pas spécialement des personnalités enseignantes. Ce sont des personnes dont l'autorité n'est rejetée par personne, et ce sont en même temps des personnes qui ne sont liées, si vous voulez, à aucune organisation d'enseignement, et qui portent sur nos problèmes d'enseignement un regard tout neuf, tout autre. Dans ce Comité national de conciliation, il y a des personnalités telles que M. le Prince Ringuet, telles que M. Merveilleux du Vigneault, qui était l'ancien chef de cabinet du président de la République, M. René Coty. Il y a M. Mons, qui est un ancien chef de cabinet de Léon Blum, qui lui-même a été gouverneur en Tunisie pendant les dernières années du protectorat en Tunisie. Un certain nombre de personnalités fort diverses, vous le voyez. Et ce sont ces personnalités qui donnent un avis au ministre de l'Éducation nationale sur le cas particulier présenté par l'école particulière de tel endroit qui veut ouvrir une section particulière dans un établissement particulier. Il y a donc une manière de créer des enseignements nouveaux, mais on sent très bien qu'elle est tellement compliquée qu'il faut passer par une filière tellement étroite qu'en définitive ne se lance à l'assaut de cette montagne que les chefs d'établissement qui ont vraiment beaucoup d'enthousiasme, de conviction et qui n'ont pas peur d'un échec. Voilà pour répondre un petit peu à votre question. Êtes-vous à l'avant-garde ou au contraire vous contentez-vous de suivre ? Nous avons ici dans le Loiret beaucoup d'enseignements que nous avons réussi à développer, de sections que nous avons réussi à mettre sous contrat dès leur origine, parce que nous avons mené une politique d'entêtement, jusqu'à ce que nous obtenions du Comité national l'autorisation d'ouvrir ces sections et de les mettre sous contrat. Et c'est certainement pour l'ensemble de notre région un atout, parce que les départements des environs peuvent ainsi trouver ici un complément d'orientation pour les familles. Je passerai sous silence les conséquences d'une telle politique, mais vous devez vous douter que pour se développer dans ce sens-là, il faut investir énormément parce qu'il faut construire et que là, nous n'avons aucune aide de l'État. L'État paye les professeurs, l'État paye certaines dépenses de fonctionnement, mais l'État ne nous verse absolument pas un sou pour les constructions scolaires. Or, nos établissements ne sont pas faits pour accueillir les nouvelles sections scolaires, étant donné que jusqu'à la loi de 59, nous n'avions pas beaucoup de possibilités de construire, puisqu'il s'agissait d'aller au plus urgent, c'est-à-dire de payer les maîtres. Voilà.
Il me semble quand même que il devrait y avoir possibilité de collaboration entre l'État et les catholiques.
Oui.
Ou l'État et l'Église.
Oui.
Oui, au lieu de cette ce qui semble être toujours une imposition de la part de l'État sur l'Église et sur l'organisation de l'enseignement catholique. Pourquoi est-ce que vous pensez que qu'on n'arrive pas à une collaboration, que l'État n'accepte pas une espèce de...
Je pense qu'il ne faudrait pas dire qu'il ne l'accepte pas, parce que la loi scolaire a été excessivement bénéfique pour le rapprochement des mentalités. Nous venons de très très loin en France, et le fossé est énorme entre les différentes conceptions sur l'éducation. Je pense que la loi scolaire est de ce côté-là très bénéfique, car elle a opéré un très gros rapprochement. J'avais sorti ici pour vous le montrer le livre qui vient de paraître sur un bilan 10 années d'application de la loi du 31 décembre 59, faite par un professeur en droit qui s'est particulièrement spécialisé sur la jurisprudence de ces 10 années. Pas uniquement sur les textes de la loi de 59 et sur les décrets de 60, mais sur l'évolution de ces 10 années. Et quand on voit les textes d'aujourd'hui par rapport aux décrets du début, nous constatons une énorme évolution dans le sens du rapprochement. Et en ce sens, j'ai beaucoup aimé une très grosse conférence que nous a faite M. Mons, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc un membre de ce comité national de conciliation, et qui lui-même est socialiste bien connu, puisqu'il était, je vous le disais, chef de cabinet du président Léon Blum, et qui nous a fait... nous, directeurs diocésains de France, réunis à Saint-Flour au moment de l'hiver dernier, qui nous a fait une journée de conférence et d'entretien. Et l'un des thèmes essentiels de son entretien était celui-ci. Je puis vous dire, en tant que membre du comité de conciliation, et au nom même de mes collègues qui partagent tous le même point de vue, c'est que cette loi scolaire a été une loi de rapprochement entre les Français. Non pas une loi de division, comme on l'a dit au début, elle va couper les Français, mais une loi de compréhension. Car l'ensemble de tous les travaux que nous avons pu faire avec une équipe constituée d'éléments très disparates du point de vue des mentalités nous a montré combien nous pouvions nous entendre sur un problème qui est aussi difficile. Nous sommes donc en très grand progrès, en très très grand progrès. Seulement, Il faut comprendre ce qu'est la France. La France est un pays, n'est-ce pas, qui a des idées très généreuses et très belles. Bon, les textes, les préambules, les orientations des lois, c'est superbe. Et puis la France, elle est faite d'administration. Et les personnes qui appliquent la plupart du temps, n'est-ce pas, ces lois, ne sont pas les personnes qui les ont préparées. Mais c'est l'énorme personnel administratif qui prend un texte, qui essaye de le comprendre, et qui a toujours en arrière-pensée et qu'il est fait pour économiser les deniers de l'État. Donc chaque fois qu'un mot peut être interprété d'une manière restrictive, chaque fois qu'une virgule peut être considérée comme n'existant pas, chaque fois que ça fait un travail un peu supplémentaire d'étudier un dossier, alors qu'il est beaucoup plus simple de dire qu'il ne répond pas aux exigences voulues, on vous renvoie le texte. Et il faut le savoir, c'est comme ça. C'est dû tout simplement à la volonté d'économie, peut-être. C'est dû aussi, mon Dieu, à une certaine faiblesse humaine qui fait dire que les choses nouvelles sont plus compliquées que les choses routinières. Alors, on nous renvoie très souvent des dossiers en nous disant « il manque ceci, il manque cela, c'est pas conforme ». Alors, si on se contente de dire « le Dieu administration m'a renvoyé mon dossier, donc je me soumets au Dieu administration en disant qu'il a raison », comme ça, on fait jamais rien. On peut dire aussi, n'est-ce pas, les hommes de l'administration peuvent se tromper, les hommes de l'administration peuvent ignorer. Alors, je vais m'expliquer. Et puis, si les hommes de l'administration n'acceptent pas mes explications, il y a quand même dans l'administration des textes qui disent qu'il y a des conseils d'interprétation. Il y a des tribunaux administratifs qui sont faits pour casser des décisions de circulaires, parce qu'elles ne répondent pas aux idées fondamentales de la loi. Alors évidemment, il faut tout un appareil juridique, et nous avons dans l'enseignement libre tout un appareil juridique spécialisé dans l'étude de la loi pour que les décisions du plan administratif ne fassent pas loi. Bon, alors ça, si vous voulez, ce n'est pas essentiellement, si vous voulez, de la mauvaise volonté, c'est la loi de l'humanité. Et puis alors, il y a à côté de cela un noyau à penser, et cela est beaucoup plus grave, ce noyau à penser qui fait dire qu'il n'est, il n'est pas normal qu'il y ait plusieurs manières d'éduquer les Français. Et qui dit, n'est-ce pas, c'est à l'éducation nationale, service d'État, de répondre à l'éducation des Français purement et simplement et uniquement. Alors, cela s'appuie sur toute une philosophie, toute une conception du rôle de l'État. Je ne peux pas partir sur tout ce sujet-là, je vous ferai volontiers une conférence là-dessus, mais c'est beaucoup trop long, n'est-ce pas, beaucoup trop long. Je voulais simplement vous dire, c'est un fait. En France, il y a cela. Alors, ce fait s'appuie ensuite, n'est-ce pas, évidemment, comme tout mouvement, comme toute politique, on a une théorie. Et puis ensuite, on a, selon les circonstances, des moyens pour réaliser cette théorie. Alors, les moyens, on les trouve très facilement en ce moment. Ce noyau à penser, il dit, nous allons faire des dépenses considérables si nous laissons l'enseignement catholique s'adapter à la réforme et ouvrir des établissements. Ben, puis nous en ouvrirons d'autres dans l'éducation nationale, puis en définitive, on va en avoir deux, et puis ils vont se faire concurrence. Donc supprimons la concurrence. Bon, on va nous dire la carte scolaire, c'est-à-dire la répartition des différents enseignements en fonction des effectifs d'enfants. On va nous dire, cette carte scolaire, il y a une manière de la faire, c'est la manière sage. On dit, il y a tant d'élèves dans un secteur de temps, donc il nous faut tant de collèges. Ensuite, à partir de la seconde, il faut tant d'élèves dans un département pour pouvoir avoir un établissement à partir de la seconde. Donc on prend le total des élèves, et puis on fait des divisions, puis ça fait de l'arithmétique, et on dit qu'il faut tant d'établissements. Si vous laissez dans cette conception-là s'intégrer des établissements de l'enseignement libre, d'un seul coup, nous, toute notre carte scolaire de l'enseignement public, elle est faussée. Parce que nous comptons, nous, avec la totalité des élèves. Donc, il n'y a pas de possibilité de collaborer avec un enseignement privé. Alors, ce à quoi nous répondons, mais pourquoi prenez-vous pour principe qu'il faut que la totalité des élèves aillent tous dans l'enseignement d'État? Nous ne demandons pas mieux que de discuter avec vous autour d'une table pour savoir s'il est bon de faire une prévision dans tel ou tel sens. Mais je comprends très bien que si vous faites une prévision pour tout le monde, nous arrivions nécessairement à une impasse. Car lorsque les établissements seront construits, où les élèves resteront dans l'enseignement libre et vous aurez des établissements où il y aura de la place, où les élèves vont dans les établissements où vous avez de la place et les établissements d'enseignement libre seront vides. Ce n'est vraiment pas une politique d'économie. Alors nous disons que le remède, il est dans la concertation autour d'une table avant de commencer. Mais cela, pour l'instant, n'est pas pensable. Alors il faut s'entendre au mieux pour des occasions exceptionnelles, pour des points particuliers, négocier. Évidemment, comme en ce moment, il n'y a pas suffisamment de finances pour l'État pour faire toutes les constructions qui seraient nécessaires, on peut penser qu'il les fera davantage là où il n'y a pas d'enseignement libre. Mais s'il les fait là où il y a de l'enseignement libre, il est certain que nous irons à une impasse. Au fond, la conception de ce noyau que j'appelle de l'éducation nationale, cette conception est celle-ci, à propos de la carte scolaire. L'enseignement libre répond à un besoin lorsque l'enseignement public n'a pas de place pour mettre les enfants. ou lorsque l'enseignement public n'a pas un projet immédiat pour construire ce qu'il faut pour mettre les enfants. Alors que nous disons, les parents d'élèves disent, un établissement d'enseignement libre répond à un besoin scolaire lorsqu'il y a un nombre de parents suffisant qui veulent une éducation de leurs enfants dans un établissement privé. Ce qui fait le besoin scolaire, c'est la volonté exprimée par les familles qui disent « je le veux ». Si ces familles sont en nombre suffisant pour constituer un établissement, alors à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi ça ne répond pas à un besoin scolaire. Alors la conception est très différente. Nous irons petit à petit, n'est-ce pas, peut-être dans un rapprochement. Mais c'est cela qu'on aimerait bien que la nouvelle loi précise. Qu'appelle-t-on le besoin scolaire reconnu? Car tout, en définitive, dépend de cette interprétation. Voilà.
Oui, alors je vous remercie beaucoup. J'avais complètement oublié que j'avais l'intention de vous demander si Orléans, ou si le diocèse d'Orléans est assez typique comme diocèse en tant qu'établissement d'enseignement catholique, ou s'il y a moins ici qu'ailleurs, ou s'il y a plus ici qu'ailleurs.
Bien, je pense que pour Orléans, nous pouvons tirer à peu près la même conclusion que pour beaucoup d'autres choses. Depuis que les départements de France ne s'appellent plus avec leur nom propre, mais avec des numéros,
oui.
Nous avons le numéro 45 pour le Loiret. Et 45, cela fait la moitié de 90. Et nous avons l'habitude de dire que dans le département du Loiret, on est moyen pour tout. Nous ne sommes géants pour rien et microscopiques pour rien. Nous sommes moyens pour tout. C'est ce qu'on vous dira pour le développement économique, c'est ce qu'on vous dira pour tout. Alors je vous le dis aussi pour l'enseignement libre, nous sommes moyens. Nous n'avons nullement l'intention de nous comparer à des départements tels que la Vendée, la Bretagne, l'Alsace, le Nord, Lyon, la Lozère, qui sont les départements où il n'y a le plus d'enseignement libre. Mais nous ne sommes pas non plus des départements médiocres. Nous avons 12 000 élèves dans l'ensemble du département, dont la moitié en établissement secondaire ou technique. Nous avons fait un gros effort d'adaptation, comme je vous le disais, à la réforme, pour pouvoir offrir une orientation aux familles, avec beaucoup de diversité. Pour l'ensemble de la région, nous sommes à peu près à égalité avec Tours et avec Chartres, surtout avec Tours, qui sont les deux établissements qui ont le plus d'enseignement libre, Orléans et Tours. Les autres départements sont moins importants, ou par le nombre total de leurs habitants, ou par la répartition de leurs collèges d'enseignement libre. Ce qui fait que dans l'enseignement, dans le Loiret, nous ayons un enseignement libre important, c'est la conséquence de 100 ans d'existence, à la suite de Mgr Dupanloup, qui s'est trouvé évêque d'Orléans peu de temps après la loi de 1850, qui a développé l'enseignement libre secondaire, la loi Fallou. Et Mgr Dupanloup, qui a été l'un des artisans de cette loi, s'est trouvé après évêque d'Orléans, et il l'a appliqué dans une diocèse d'Orléans, et voilà pourquoi il a mis sur place un certain nombre de structures, et nous n'avons fait que les développer petit à petit, les adapter, mais c'est la lancée de ce siècle entier d'existence.
Intéressant. Je crois que la seule question, à part ça, que j'avais à vous poser, oui. C'est comment croyez-vous que les parents eux-mêmes choisissent entre l'école libre,
oui.
Et l'école publique,
oui.
Vous avez parlé des appels,
oui.
Et des parents et des professeurs et des élèves qui se mettent ensemble pour créer une éducation.
C'est ça, oui.
Mais il y a sans doute d'autres parents qui simplement se trouvent en face de l'enseignement public et de l'enseignement libre, et il leur faut faire un choix entre les deux.
Oui,
comment est-ce qu'en général on fait ce choix?
Oui, c'est très très difficile, n'est-ce pas, à répondre à cette question, parce que la plupart du temps, ce sont les mêmes parents.
Oui.
La plupart des parents ont des élèves, la plupart des parents qui ont des élèves dans l'enseignement libre ont aussi des élèves dans l'enseignement public. Et voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas parler d'associations de parents de l'enseignement libre comme s'il existait une catégorie de citoyens français qui n'avait aucune vue sur l'enseignement d'État, l'enseignement public et les problèmes d'éducation qui se posent dans l'enseignement public. La plupart ont en même temps des enfants des deux côtés. Cela, d'abord, est une nécessité, parce que l'enseignement libre n'assure pas, dans toutes les implantations géographiques, la diversité des enseignements qui sont nécessaires pour les enfants. Donc il est même indispensable, en dehors de toute conception de l'éducation, il est d'abord indispensable, inévitable au moins, que des parents aient des enfants dans les deux enseignements. Je vois par exemple un certain nombre de secteurs où nous n'avons que des écoles primaires. Lorsque l'enfant sort à 11 ans, il doit bien aller dans un établissement. Et s'il veut venir à Orléans ou à Gien ou à Montargis, il faudrait qu'il soit pensionnaire. Les parents ne le peuvent pas. Donc à partir de la 6e, l'enfant devient un élève de l'enseignement public. Nous avons des établissements qui vont jusqu'à la 3e et il n'y a pas nécessairement à côté un niveau lycée. Donc à partir de la 2e, ils vont dans l'enseignement public. Nous avons en fin de 3e des quantités d'établissements techniques, des quantités d'enseignements techniques que nous n'assurons pas, sauf en quelques points géographiques. Donc il faut bien que les parents confient leurs enfants à l'enseignement d'État. Donc les mêmes parents font la plupart du temps partie d'associations de parents d'élèves de l'enseignement public et ont le même souci d'éducation de leurs enfants avec d'autres méthodes qui sont les méthodes des aumôneries de l'enseignement public et ils ne peuvent pas être étrangers à ces soucis. Mon rôle n'était pas ici d'aborder avec vous toute la question des problèmes de l'aumônerie de l'enseignement public. Voilà pourquoi je n'en ai pas parlé. Mais nous avons toujours sous-jacent ce problème de la présence de même famille dans des organismes qui sont différents. Alors, pourquoi ceux qui peuvent choisir l'enseignement public parce que localement, il y a les enseignements qui conviennent, choisissent-ils l'enseignement libre ou choisissent-ils l'enseignement public? Je pense qu'il y a des questions de fait qui peuvent dire que géographiquement, on est plus proche de l'un que plus proche de l'autre, que telle famille amie va là ou n'y va pas. Il y a des questions financières qui jouent. Des familles nombreuses peuvent faire un sacrifice pour un ou deux, ne peuvent pas faire un sacrifice financier pour tout. Parce que je vous ai dit qu'il restait à notre charge quantité de dépenses, à commencer par les dépenses de construction. Et qu'il faut bien que nous demandions encore des participations aux familles. Il peut y avoir aussi des motifs d'ordre sociologique. Il se trouve que telle famille m'a dit un jour, que voulez-vous, je suis d'un quartier périphérique, d'un milieu ouvrier, et si j'envoie mon fils plus loin, j'ai peur qu'il se trouve dans l'école où il y a en même temps les enfants de mon patron. Que voulez-vous que je réponde à cela? Chacun est libre, fait comme il veut. Mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui estiment que, étant donné que le monde est très diversifié, que les options religieuses sont très mélangées, et que les jeunes sont appelés à vivre dans une mentalité, dans une vie, si vous voulez, dans un milieu où ils seront appelés à être confrontés à toutes sortes de mentalités philosophiques ou religieuses, il est bon que très jeunes, dans le cadre d'un lycée, ils rencontrent les mêmes courants et qui ont donc une autre manière de concevoir l'éducation chrétienne des jeunes, en disant que plutôt que de se retrouver entre familles qui partagent la même foi, il vaut mieux qu'ils se trouvent au contraire mêlés avec d'autres. Ce sont des opinions, ce sont des manières. Les parents sont libres d'avoir leur conception, leur choix. D'ailleurs, la déclaration de Lourdes qui a été faite par les évêques tout récemment.